En Belgique, un nouveau code pénal est entré en vigueur. C'était le 1er septembre dernier et c'est une première depuis près de 160 ans. On en parle ce matin avec Damien Vandemersch. Il est avocat général auprès de la Cour de cassation. Il est professeur également à l'UC Louvain et l'un des principaux artisans de cette réforme. Il est lui aussi au micro de Blaise van der Linden.
Damien Vandemersch, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Radio Judaïka. Alors, c'est officiel, hein, ce 1er septembre, une page judiciaire vieille de près de 160 ans s'est tournée après un faux départ en avril dernier. La Belgique a un nouveau code pénal. Alors, vous êtes l'un des artisans de cette réforme, Damien Vandemersch. Racontez-nous ce qui va changer pour les citoyens.
Ah ben c'est d'abord un tout nouveau code pénal. Donc on avait un code pénal du 19e siècle, 1867. C'était un peu l'héritage de Napoléon. Vous vous rendez compte qu'avec le temps, ce code avait complètement vieilli et était devenu tout à fait lisible. Alors ce qui va changer, je crois que c'est deux aspects primordiaux. D'abord, et c'est important, c'est la lisibilité du code. On va comprendre beaucoup mieux ce que les notions, l'application du droit pénal, les notions de base, notamment les peines, puisqu'on va avoir des peines maintenant de niveau 1 à niveau 8. Donc, on va percevoir beaucoup plus facilement ce que peut coûter une infraction. Donc, vous savez, c'est souvent la question des gens, mais que risque-t-il ou que risque moi qui ai commis une infraction, qu'est-ce que je risque? Eh bien, la réponse sera beaucoup plus accessible, puisque ce sera, par exemple, une infraction punie d'une peine de niveau 5 ou d'une peine de niveau 3. Donc, ça, c'est un premier point et c'est important évidemment d'un point de vue citoyen, c'est quand même un accès à une compréhension des enjeux importants. Vous savez, les enjeux pénaux sont évidemment des enjeux importants puisqu'il s'agit d'infractions qui touchent évidemment la vie des gens. Et par ailleurs, on a un nouveau message donné par le législateur à travers les objectifs de la peine. Donc la peine dans l'ancien code, on lui assignait aucun objectif, mais c'était souvent en toile de fond la rétribution. C'est-à-dire infliger un mal à une personne parce qu'elle a commis un mal ou qu'elle a infligé un mal à une victime. Alors c'est ce qu'on appelle la rétribution. Il faut savoir que dans le nouveau code, on en regarde plus dirigé également vers l'avenir. Le passé, c'est l'infraction. Le présent, c'est décider de la peine. Et l'avenir, qu'est-ce qu'on fait pour qu'après l'intervention pénale, les gens, c'est-à-dire les victimes, la société, mais aussi les auteurs et leur entourage, se trouvent mieux après l'intervention pénale, donc après, plutôt qu'avant. Or, aujourd'hui, on a constaté que souvent le problème, c'est que les gens sont moins bien après l'intervention pénale. Les victimes sont déçues par rapport à l'intervention pénale. Les auteurs vont en prison et souvent ils récidivent. Et la communauté, évidemment, s'en trouve aussi touchée par cet aspect, évidemment, de la récidive. Et donc, on a voulu, à travers les objectifs de la peine, dire, mais comment font lutter efficacement contre la récidive? Alors, les objectifs de la peine sont d'abord le rappel de la loi, dire oui, c'est interdit, donc vous avez commis une infraction, c'est interdit. Puis deuxième aspect, ça c'est un aspect évidemment novateur, c'est restaurer l'équilibre social et la réparation du dommage causé par l'infraction. Donc on a une dimension ici de justice restauratrice et réparatrice où une attention est portée notamment également par rapport aux victimes. C'est comment réparer le dommage, mais comment aussi faire restaurer l'équilibre social à travers la peine, c'est-à-dire effectivement ce rappel de l'interdit, mais aussi faire que la peine contribue quelque part à réparer ce qui a été causé par l'infraction et y inclure évidemment victime, auteur, mais aussi pourquoi pas la communauté. Mmh. Et puis l'aspect suivant, c'est réinsertion et réhabilitation qui était déjà au niveau des objectifs, au niveau de l'exécution des peines. Et puis quand on est démuni et qu'on ne sait rien faire, c'est la protection de la société. Ça évidemment, c'est dans les cas les plus extrêmes.
Oui, alors il y a un point aussi très important et vous l'avez rapidement abordé, c'est la prison. Aujourd'hui, la prison dans ce nouveau code pénal devient le dernier recours. C'est un niveau de 1 à 8 en termes d'infraction. Il faudra vraiment avoir fait quelque chose de très très grave pour se retrouver en prison si je vulgarise la chose.
Oui, donc l'idée est vraiment de dire, on sait que la prison est contre-productive. Alors parfois on n'a pas le choix. Et c'est pour ça qu'on a notamment cet objectif de protection de la société, parce que ça veut dire que la prison, on neutralise la personne, faut-il le dire, pendant un certain temps, parce que tôt ou tard, la plupart des gens en prison vont sortir un jour. Donc, il est important que ce temps de prison, qui est un temps finalement perdu pour tout le monde, parce que on dit on neutralise la personne, mais on neutralise la personne dans toutes ses capacités positives également, les capacités pour s'en sortir. On sait que la solution pour s'en sortir, et sous-entendu pour éviter la récidive, se trouve en dehors des murs de la prison et pas dans la prison. Au contraire, on dit que la prison, trop souvent, est l'école du crime. Donc, le but est vraiment, et les études criminologiques le disent, c'est que la prison est un moment soit à tout le moins perdu, mais qui peut entraîner beaucoup plus d'effets négatifs que d'effets positifs. Et donc, c'est face à ce constat-là que le législateur a posé comme principe que la prison est vraiment l'ultime recours quand toutes les autres solutions ne permettent pas d'atteindre les objectifs de la peine que j'ai évoqués.
Alors, il y a un point que je souhaitais aborder avec vous, c'est la modernisation de ce code pénal. On l'a rappelé, hein, ça fait 160 ans que ce code pénal était en vigueur en Belgique. Aujourd'hui, on a des nouvelles infractions qui entrent en compte, qui sont plus dans l'air du temps. Je pense aux écocides, aux homicides routiers, aux viols, aux violences intrafamiliales, qui n'étaient pas forcément des choses dont on s'occupait il y a 160 ans. Il était important de moderniser avec les enjeux de la société actuelle?
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, l'ordre des infractions est différent. Alors, on commence par, avant dans l'ancien code, c'était les atteintes à la sûreté de l'État qui étaient les premiers articles, les atteintes au roi, etc. Donc, un peu les atteintes à l'ordre établi. Ici, on commence par les violations de droits humanitaires et puis l'écocide. Et puis, on est les infractions contre la personne, contre la vie, contre l'intégrité physique. Donc, on a un ordonnancement qui reflète davantage les enjeux de nos sociétés et les priorités. Donc, ça, c'est une chose, mais aussi, effectivement, une attention a été apportée, d'abord pour bien nommer les choses, donc en termes pour dénommer les infractions qui sont reprochées, mais par exemple, on ne va plus parler de coups ou blessures volontaires, on va parler d'actes de violence. On va parler évidemment de meurtre, on va toujours employer ces termes-là, mais comme vous avez cité, il y a l'homicide routier, c'est aussi, on veut mettre l'accent plus que ce n'est pas un accident, mais que c'est un homicide commis dans le cadre de la circulation. Donc il y a vraiment une volonté de coller davantage, avec par exemple des dénominations qu'on ne connaissait pas. Marchand de sommeil, tout le monde connaît ça dans le langage courant, mais c'était pas dans l'ancien code. Blanchiment, c'était pas dans l'ancien code. Maintenant, vous avez pour chaque infraction une dénomination, et la dénomination, je veux dire, au maximum dans le sens courant du terme, comme ça c'est accessible à tout le monde. Et donc, il y a vraiment une réécriture de l'ensemble du code pour précisément mieux cerner les infractions, pouvoir dire, mais de quoi parle-t-on? Quel est le comportement interdit?
Alors, il y a aussi un toujours dans cette optique de modernisation, et la raison pour laquelle ça n'était pas entré en vigueur en avril dernier, c'est l'informatique. On observe vraiment une amélioration du système informatique qui va, je suppose, aider les gens qui vont faire régner la loi.
Oui, alors, vous savez, l'informatique, moi je dis toujours, ne retournons pas l'équation. L'informatique est à notre service et nous ne sommes pas au service de l'informatique comme trop souvent on semble le dire. Donc cet agenda, il avait été fixé sur 2 ans. Je ne vous cache pas que si l'informatique n'était pas prête en 2 ans, ma crainte c'est qu'après 5 ans, elle ne soit toujours pas prête. Mais ce qui était vrai, ce qui a justifié, à mon sens, de façon beaucoup plus objectif, le report du 8 avril au 1er septembre, c'est que les lois d'adaptation, par exemple la loi relative à la circulation routière, c'est du quotidien, hein, c'est tous les procès devant les tribunaux de police chaque jour, eh bien cette loi n'avait pas encore été adaptée pour le 8 avril. Or ça, ne pas l'adapter pour un tel contentieux aussi important, c'était plus que problématique. Et puis finalement, le 1er septembre est une bonne date pour les juges. Le début de l'année judiciaire, les procès se sont clôturés fin juin, ils recommencent au 1er septembre. Vous imaginez que s'il y avait eu un procès qui avait eu lieu, qui avait été plaidé le 5 avril, et que l'affaire était jugée le 10 avril, il fallait appliquer, on était à cheval et il fallait appliquer les 2 codes. Ici, on sera, avec la date du 1er septembre, on sera moins à cheval sur 2 codes, puisqu'on recommence une nouvelle année judiciaire. Donc, je pense que c'est vraiment des très bonnes conditions pour appliquer ce nouveau code. qui va naturellement exiger un travail important des magistrats, mais depuis 2 ans, les formes. Donc, je pense qu'ils seront tous prêts.
Damien Vendormerche, je rappelle que vous êtes avocat général près de la Cour de cassation, professeur à l'UC Louvain et l'un des principaux artisans de la réforme du nouveau code pénal. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Radio Judaïka.
Oui, au revoir.